France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Je suis Christoph Eschenbach. Je suis né le 20 février 1940 à Breslau. Je suis chef d'orchestre et quelquefois aussi pianiste. Ça, c'est ma vie.
Christoph Eschenbach, cette deuxième naissance à la musique, en quelque sorte. Vous vous souvenez par quel compositeur vous avez commencé à vous exprimer par la musique?
Bach. C'est étonnant pour un enfant de 6 ans, à ce temps j'avais 6 ans, que cette musique qu'on analyse toujours comme mathématique ou comme structurelle ou quoi. Elle m'a parlé. Elle a parlé à mon sentiment, à mes sentiments. Il a ouvri mon cœur. Mais aussi d'autres choses. Beethoven, par exemple. Elle jouait toutes les sonates de Beethoven.
Et. Elle chantait aussi.
Elle chantait aussi et donnait des leçons de chant.
Quel répertoire? Du Lied ou de l'opéra?
Non, pas de l'opéra, parce qu'elle avait un genou qui ne marchait pas, alors il ne pouvait pas faire actrice opératique. Alors elle a plutôt montré la littérature de Lieder, de Schubert, de Schumann, Brahms et tout quoi.
Elle s'appelle Validor, hein? C'est ça?
Oui.
Validor Eschenbach.
Oui.
C'est elle qui vous a donné votre nom. En dehors de l'enseignement, elle a aussi une carrière
non,
de concertiste.
Non, il ne voulait pas ça. Il était passionné d'enseigner. Et je me rappelle, quand j'étais plus âgé, elle était plus âgée, comme c'était émouvant pour moi de lui écouter faire des leçons de musique pour des enfants. Il avait une spécialité pour enseigner les enfants pour le piano.
Donc c'est elle qui vous a enseigné le piano selon cette méthode. Vous vous souvenez de sa façon de faire, d'une méthode en particulier?
Non, et ça c'était une grande chose. Et pourquoi elle était tellement bien pour les enfants? Elle enseignait pas dans une façon de méthode, ou avec méthodologie. Elle avait... pour chaque enfant, la méthode de la personnalité de cet enfant. Et c'était merveilleux de voir comme elle a découvert immédiatement les petites personnalités là, qui étaient tout à fait différentes.
Donc c'est elle qui vous a introduit à Bach?
Oui, beaucoup des autres choses aussi. Mais je me rappelle que j'adorais Schumann et j'adorais Chopin.
Il y a d'ailleurs les petites scènes d'enfants de Schumann qui vont vous accompagner à plusieurs moments de votre vie.
Et de oui, votre les parcours. Scènes d'enfants.
C'est avec elles que vous les avez appris.
Oui. Ils m'ont accompagné jusqu'à maintenant d'ailleurs.
Thank you. J'ai cru comprendre que le piano qui est derrière vous, le piano Bechstein, vous l'avez hérité de votre mère.
C'était le piano de ma deuxième mère. Parce que tout ce qui était à Breslau, on ne pouvait pas prendre naturellement un piano avec, sur le chemin. Là. Mais tout ce qui était là était détruit. Quoi.
C'était ce piano-là sur lequel elle jouait quand vous étiez petit et malade.
C'est un vieux Bechstein de l'année, je pense, 1893.
Vous y jouez, vous, souvent? C'est un piano que vous affectionnez?
Oui, naturellement, dans les premières années d'études pianistiques, j'ai joué sur ce piano. Commencer de vivre avec le piano et avec ce piano là-bas.
Vous avez le souvenir d'y avoir passé beaucoup de temps sur ce piano enfant?
Oui. Parce qu'à l'école, je me sentais pas, à l'école normale, je me sentais pas très bien parce que j'étais dans mon enfance avant l'école, j'étais toujours seul. Et maintenant, dans l'école, j'étais avec 30, 40 en plus d'enfants et ça me faisait mal. Alors j'étais heureux de rentrer à la maison et de trouver mon piano.
C'était un solitaire.
Oui. Oui, et d'abord, je l'ai aimé d'être seul et d'exprimer moi seul. Mais après, quand j'ai écouté les premiers concerts d'orchestre, j'étais fasciné de l'orchestre. Et aussi dans la vie de pianiste professionnel, pianiste avec les récitals partout, et avec, je me sentais tout d'un coup très seul. Et je voulais correspondre avec des autres gens dans la musique. Faire la musique de chambre, faire des chants avec, par exemple, le fichier disque, Gorn et quoi. Et bon, c'est une autre histoire.
Une wunderschöne Monat Mai, als alle Knospen stranden, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. In wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich hier gestanden, meine Seele und Verlangen.
Christoph Eschenbach, une étape importante de votre construction musicale, c'était en 1951. C'est la prise de conscience de la force évocatrice d'un orchestre. Vous avez entendu Furtwängler diriger l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ils étaient en tournée, hein, c'est ça?
Oui, ils étaient. Ma nouvelle famille était maintenant. Avaient changé leur domicile de Mecklenburg à Schleswig-Holstein. Et là, j'ai écouté Furtwängler avec Berlin, à Kiel.
Vous vous souvenez du programme qu'ils ont interprété?
Oui. C'était la 4e symphonie de Beethoven. C'était la grande fugue de Beethoven dans la version de Weingartner. Et la 5e. Beethoven. Alors, tout un programme Beethoven. Il m'a bouleversé. Ça, ce qui m'a impressionné tellement, était comment faire un homme comme ce type-là, qui est Furtwängler, qui était un peu étrange. Là, c'était un magicien. Et comment il pouvait faire les musiciens jouer comme des anges, parfois, et comme des diables, parfois. Beethoven montre tout. Hein.
Donc c'est la figure de Furtwängler qui vous fascine.
La figure et la façon qu'il, comme un magicien, tirait la musique des musiciens d'orchestre.
Vous vous souvenez de la salle où vous étiez?
Oui, c'était une salle terrible. C'était une arène de sport. Oui. Mais
l'acoustique
nous avons eu une place très proche à la scène, et juste au-dessous de magicien là.
Plus tard, quand vous avez vous-même dirigé ces œuvres-là, vous y avez repensé?
Ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas.
Les grands entretiens de Christophe Eschenbach, France Musique.
Est-ce que plus tard, quand vous rencontrez Karajan, est-ce que l'ombre de Furtwängler était encore là?
Oui, certainement. Mais une fois, c'était beaucoup plus tard à Berlin, j'étais dans un concert de Karajan qui fait un memorial concert pour les 100 ans d'anniversaire de Furtwängler. Quelque chose était tellement impressionnant de Karajan dans ce concert, c'était l'inachevé de Schubert. J'entends encore dans mes oreilles ce Schubert de Karajan, et je l'ai parlé de ça aussi après, quand je l'ai connu, et il confirmait la génialité de Furtwängler.
Alors que leur rapport entre deux était très compliqué.
Très compliqué, parce que Furtwängler était très jaloux de Karajan, du jeune Karajan, et Karajan était plein de force d'être un grand chef. Alors ça, personnellement, c'est pas les traiter bien, mais l'estime artistique de Karajan versus Furtwängler était énorme.
Christophe Eschenbach, à 1951, quand vous avez 11 ans et que vous entendez pour la première fois cet orchestre philharmonique de Berlin, votre désir d'être, de devenir un jour Furtwängler sur le podium, vous exprimez ce désir à votre mère?
Oui, immédiatement. Elle voyait ça aussi, dans mes yeux, dans tout ce que je disais ou tout ce que je disais pas, parce que c'était tellement, j'étais presque muet. Et j'ai dit, après une heure ou quoi, j'ai dit, je veux être chef d'orchestre. Et ma mère disait, oui, bien, bien. Alors, le piano, c'est pas assez. Il faut jouer un instrument d'orchestre. Et quand mon deuxième père jouait amateur, il était, mais bon, il jouait assez bien le violon. Et dans cette nouvelle famille, on faisait beaucoup de musique de chambre. Avec beaucoup de gens d'une petite ville, le violoncelliste était un coiffeur et la altiste était une... je me rappelle pas qu'est-ce qu'il était, mais pas musicien professionnel. Mais on faisait musique de chambre.
Donc c'est votre père qui vous a enseigné le violon ?
Ouais. Oui. Les deux premières années. Et puis, j'avais aussi des leçons à partir de 10 ans, mon âge de 10 ans, avec la professeure Elisa Hansen à Hambourg. On voyageait à Hambourg, d'une petite ville, petit village là, je suis Rochelle.
Elisa Hansen, c'était votre professeure de piano, hein?
De piano, oui. Et elle a aidé mes parents de trouver un professeur de violon qui était jeune et qui avait beaucoup de spécialités pour enseigner des enfants. Et j'ai commencé avec le violon et j'ai passé assez de temps jusqu'à l'âge de 23 parce que je l'ai continué l'étude de violon au conservatoire à Hambourg avec une merveilleuse professeure, une vieille dame qui était disciple de Karl Flech et une dame qui était émigrée dans les années nazies à Londres, où Flech était professeur, qui était émigré aussi. Vous voyez, le temps de ces années après la guerre montrait toujours des situations assez difficiles jusqu'au terrible, des années terribles en Allemagne. Et avec ça, ça m'était confirmé qu'est-ce que mon père, mon vrai père, souffrait, et beaucoup les autres gens. Ce n'était pas facile pour les Allemands.
Oui, vous l'avez ressenti longtemps encore après la guerre, vous aviez encore
oui.
Ce ressenti-là.
Oui. Ouais. Jusque maintenant, le pays est toujours en danger de cette... terrible maladie noire, hein, ou brune. Et c'est malheureusement en Europe maintenant, c'est en Autriche, c'est là, c'est en Pologne, tout ce mouvement droit est pénible. Aussi le problème des réfugiés, des Syrie, ça me touche très très fort.
Oui, parce que vous savez ce que c'est que d'être un réfugié.
Yeah. Oui.
Est-ce que vous aviez compris, enfant, à quoi allait vous servir le violon ? Est-ce que vous avez accueilli le violon de quelle façon ?
Oui, naturellement, comme deuxième instrument. Ça veut dire deuxième aussi, que je n'ai pas eu le temps, avec l'école, le lycée. J'ai fait mes examens d'abitur au lycée. Et avec ça, je n'avais pas assez de temps pour le violon. Mais quand même, j'ai étudié les grands concertos, Beethoven, de Bruch, de Brahms et Mendelssohn.
Et en musique de chambre
Musique de chambre, j'ai fait avec mes deux parents des sonates pour deux violons. J'ai joué aussi l'alto. Yeah. Et dans le quatuor, qu'on a rassemblé des gens qui faisaient le quatuor, quintet, j'ai aimé beaucoup être au milieu de la sonorité, au milieu de la structure de l'écriture. Ça veut dire au alto.
Est-ce que vous jouiez aussi du répertoire populaire? Est-ce que
non.
Il y avait
non.
Vous avez été dans un répertoire classique.
Yeah, ça me suffisait. Et ça me suffit aujourd'hui.
Est-ce que vous aviez l'impression de passer autant de temps au piano qu'au violon? Quel était le rapport affectif que vous aviez pour chaque instrument?
C'est intéressant parce que sur le piano, je commençais d'instrumenter, de jouer avec la main droite, de trouver une orchestration, ou de découvrir dans les œuvres du piano, les sonates Beethoven, dans les œuvres classiques, Schubert, de jouer le violoncelle, ou jouer le violon, jouer au bois, flûte, quoi. Ça m'a donné un sens pour les couleurs, en général. Et aujourd'hui, on m'a demandé il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé si je joue les partitions d'orchestre aussi sur le piano. Non, je fais pas. J'ai dit ça aussi parce que ça me limite dans ma imagination de sonorité. Parce que j'ai essayé sur le piano d'orchestrer, mais c'est pas allé tellement loin que ça c'était un orchestre tout à coup. Non, c'était un piano. Ça reste un piano aussi maintenant.
Mais quand vous étiez plus jeune, vous vous amusiez à vous imaginer que c'était un orchestre.
Oui, ça, oui.
Et avec le violon, vous imaginiez quoi?
Avec le violon, c'était d'abord difficile parce que c'est une technique très spéciale, très différente du piano. Et je devais apprendre ça. Et je l'ai appris assez bien. Et j'aimais beaucoup d'avoir l'instrument très proche de l'oreille. Plus proche que le violoncelle, le violon et le alto, proche à l'oreille, et en faisant ma circulation de sang dans le cerveau très vivante.
Durant sa carrière, Christoph Eschenbach a souvent accompagné des violonistes dans des pièces de musique de chambre, comme ici Skandar Vidiedia dans le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano en ré mineur de Robert Schumann. À la prise de son, Thomas Robine. Réalisation Marie Groux, mixage Claude Nior. Attaché de production Flora Sternadel. Les références discographiques, la réécoute et le podcast de ces entretiens sont disponibles sur notre site francemusique.fr. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.